comme ça. Je ne veux pas, c'est mon droit.
Contrôle policier, contrôle judiciaire, contrôle médical, contrôle politique, contrôle économique, contrôle social, contrôle moral. À l'image de nos vies, nos corps sont des champs de bataille. Nous ne céderons pas en nous privant de liberté et de notre autonomie, notamment économique. Les hommes et l'État ont fait de nous des guerrières. Ce combat est quotidien. Nous le menons parce que ce sont nos vies qui sont en jeu. Vivre, c'est combattre. Et nous avons décidé de vivre.
A gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar.
Dégenré pour déranger, dégenré pour déranger.
Une émission féministe
sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Un mardi sur deux
et quand tu veux sur radiorageuse.net ou campusgrenoble.org.
Et bonjour.
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 Salut. Salut. Alors, bienvenue sur Dérangé, sur Radio Campus Grenoble 90.8. Comme vous avez pu l'écouter avec vos oreilles fidèles, nous avons un nouveau jingle, potentiellement encore en cours d'évolution. Mais alors, petite présentation de ce nouveau jingle pour cette nouvelle rentrée. Oh, nous avons le plaisir d'écouter Petra Pied de Biche, un extrait de Bébé. Ensuite, il y a un extrait du 8 mars pour toutes, discours des femmes en lutte 93. Et ensuite, c'est Anna Tijoux avec un extrait du morceau Antipatriarcat. Voilà pour l'instant pour le nouveau jingle.
Le nouveau jingle de Dégenré, l'émission féministe pour déranger, depuis 17 ans sur vos ondes à Grenoble et depuis quelques années sur radiorageuse.net. Et qu'est-ce que c'est Dégenré pour les auditrices et les auditeurs de Campus?
Alors, Dégenré, c'est une émission de radio féministe qu'on enregistre ou qu'on passe en direct et qui se fait en non-mixité meuf green trans, identité non exhaustive. et voilà, et en fait, que dire de plus? Et bon, en fait, on parle de plein de choses. Ça peut être des thématiques culturelles, ça peut être des thématiques politiques. En tout cas, à chaque fois, le contenu est politique, féministe et non-mixte, sans mixis. Et elle existe, cette émission, depuis 17 ans, du coup.
Et ouais, 17 ans. Et c'est à nouveau la rentrée pour Dégenré. Dégenré qui renaît de ses cendres, hein, sur une nouvelle radio, Radio Campus. Parce que les féministes, elles savent se relever des coups durs. Et même si on a le trac pour cette première, moi, je suis sûre qu'on va assurer. Alors, c'est un nouveau chapitre de notre histoire. Une nouvelle rentrée sur Radio Campus. Ah, c'est vraiment drôle d'être dans ce studio, hein. Moi, ça me rappelle des souvenirs, parce que cette émission, elle a démarré il y a 17 ans, en 2002, sur cette antenne-là, dans ce même studio qui était à peu près pareil. Il y a 17 ans. Oh, ça fait bizarre de réaliser ça. En fait, 17 ans, là, il y a des étudiantes qui débarquent sur ce campus en cette rentrée qui ont le même âge. Le même âge que cette émission. En fait, c'est une génération. Et ça veut dire... que 6 mois... J'avais pas pris la pilule du lendemain à 19 ans, pile pendant le petit moment où j'étais à la fac, là. Et que je savais pas marcher la pilule du lendemain, ou que j'avais pas avorté. Je pourrais avoir une fille de 17 ans, qui ferait sa rentrée aujourd'hui, dans une fac en 2019, et elle aurait le même âge que cette émission. Est-ce qu'elle serait féministe? Elle pourrait avoir grandi avec toutes nos émissions, elle aurait appris à parler avec nos émissions, elle aurait appris à penser avec nos émissions. Wow. Je sais pas si ça aurait toujours été pédagogiquement une bonne idée éducative, j'en sais rien. Mais est-ce qu'elle serait féministe? Bon, cette question devient obsédante. En fait, Dégenré a l'idée d'une génération, à l'âge d'une génération. Et en fait, au-delà du petit coup de vieux que ça me met au cul quand même, en fait, c'est quand même assez impressionnant. Et ça donne quelques questions existentielles, c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire être féministe aujourd'hui? Pourquoi? Avec qui? Comment? Bon, toutes ces questions, j'espère bien qu'on va essayer d'y répondre cette année avec vous sur Radio Campus.
En tout cas, merci Radio Campus, on est content d'être là.
Alors, moi je suis beaucoup restée à Grenoble cet été, mais à un moment, je suis allée à des rencontres de radio. à des rencontres de radio libre. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir parler de où en sont les radios libres et les radios associatives. Et il s'est passé plein de choses différentes. Moi, j'ai personnellement appris beaucoup de choses intéressantes. Et notamment, une des choses qu'on a fait durant ces rencontres de radio libre, c'est qu'on a écrit une tribune. Alors, on va la lire.
Tribune de la rencontre des radios libres du 10 au 14 juillet 2019 à Toulouse. Bénévoles, producteurs et productrices d'émissions, salariés, techniciens, techniciennes et administratrices et administrateurs de radios associatives et libres, nous sommes venus de toute la France pour nous rencontrer, partager autour de ce média qui nous anime. Sans avoir eu besoin d'échanger un mot ou un micro, nous sentons à quel point, pour chacun et chacune d'entre nous, la radio fait sens. Proche, irrévérencieuse, drôle, subversive, pirate. Si nos manières de faire et de vivre la radio sont plurielles, il y a néanmoins des bases que nous partageons. Nos radios associatives ne sont pas épargnées par le climat social actuel, ni par de nombreuses logiques qui découlent du système libéral, colonial et hétéropatriarcal. Nous avons souhaité, ensemble, prendre position et nous offrir une vision emplie de lendemain et de radios qui chantent. Aussi, nous, membres réunis en assemblée ce 14 juillet 2019, lors des rencontres de radio libre, affirmons que
pour nous, une radio dite libre devrait être un média qui ne dépend pas d'intérêts commerciaux, un média qui offre des espaces d'expression politique et artistique à des voix exclues des médias mainstream, une radio construite, pensée, animée par ses bénévoles et soutenue, si besoin, par les salariés. Un outil de relais des luttes, des voix invisibilisées, des paroles d'habitantes et de celles et ceux de passage. Un outil d'auto-organisation de groupes minorisés. Un espace d'échange des savoirs, d'auto-organisation, de réflexion collective, permettant la remise en question et le regard critique, essentiel à la santé de nos radios.
Être membre d'une radio libre, c'est être en lutte. Contre un modèle économique qui nous précarise toujours plus, que ce soit au niveau de l'emploi, des fonds publics ou encore des subventions locales. Contre les logiques de domination masculine, sociale, raciste, hétéronormative, validiste et toute autre logique d'exclusion. Contre l'entre-soi, lui préférer l'ouverture et la confrontation constructive. Pour des pratiques horizontales, en privilégiant des modes d'organisation collective entre salariés, membres du bureau et producteurs, productrices d'émissions de la radio.
L'Assemblée a également tenu à se positionner face à des situations vécues, passées et présentes au sein de Radio Consoeur. Aussi, nous condamnons l'exclusion de 3 émissions de Radio Kaléidoscope à Grenoble, Dégenrée, Micro-ondes et Parloir Libre en avril dernier. Cette situation est le résultat d'un dysfonctionnement qui a permis à son président, depuis des années, de confisquer les prises de décision et de les orienter de manière unilatérale, sans concertation avec bénévoles et salariés. À sa retraite, cet outil détourné de manière non démocratique a été utilisé par le nouveau président afin d'éliminer toutes les paroles subversives et les espaces critiques qui sont rares dans ce monde. Nous condamnons la pression au travail, l'absence des bénévoles, producteurs, productrices et ou des salariés dans les organes décisionnaires. Nous condamnons l'enracinement et le manque de transmission qui peuvent avoir lieu en leur sein. Nous condamnons aussi la répartition genrée des tâches au sein de nos radios, dans lesquelles, trop souvent, les femmes ont à gérer les tâches administratives et celles de soins, alors que les hommes s'occupent de la technique et des postes de direction. Une pensée pour nos grands-mères pirates.
Sachez que nous lutterons
pour que des espaces de parole dissidentes
continuent à faire bande sur la FM,
à la santé des radios libres. Acté par l'Assemblée des rencontres radio libres, 14 juillet 2019, à Toulouse.
Bravo! Ça fait plaisir.
Alors, moi, je voulais vous proposer l'écoute d'un morceau de musique. Alors, j'ai choisi un morceau de musique extrait d'un film qui m'a bien plu. Alors, ça me donne l'occasion d'en parler. Donc, il s'agit d'un film... Bon, qui est « Je suis désolée » réalisé par un garçon. Voilà, je le dis. Donc, ce garçon s'appelle Jérémy Jasper. C'est un film de 2017 qui s'appelle « Patty's Cakes ». Et c'est l'histoire de Patricia Domdrowski, qui est une grosse prole qui habite dans le Jersey et qui fait du rap. Et du coup, on la suit dans son travail, dans ses amitiés, dans son rapport avec sa mère qui est extrêmement complexe, et dans son envie de pouvoir quitter l'endroit où elle est et faire du rap. Et qu'est-ce qu'elle se prend dans la gueule en tant que grosse meuf dans cet espace-là. Bonne écoute.
Oh girls, it's a cold world of violence and vultures. You gotta be strong with this weight on your shoulders. Like New Jersey devils, we cursed upon birth. But the dreamers and freaks will inherit the earth. But these haters will hate on a heavyweight weight. Cause revenge is a dish best served on a cold plate. And I'll be that waitress with blood on my apron. Fuck minimum wage, I will bring home this bacon. Kill a P.R.I.P. Patty cakes me the name. Cause I'm sick of that fake shit like fake tits and facelifts. The bigger the girl, the deeper the pain is, the anger, the passion. I hope and I'm praying to sweet DJ Jesus. My life needs a remix. Pull mics from my cleavage and show them my genius. Big girls, we don't cry, so I rise like a phoenix. Take off these gloves, knuckle up for that tough love.
We're the New Jersey demons, so put your hands to the ceiling, cause that's the realness you're feeling.
Bartender with bars, you can run from where you're from, but not from who you are. Well, the hate's a disease, there's a cause to be free. So you can kiss my big ass, I turn thee on the cheek with no tricks up my sleeve. Oh, no, no, silly rabbit, no rings, got no bling, no 24 karat, no penthouse, no palace to live with my parent who battles the bottle since my daddy abandoned us. I know I can make it, I know we got talent, yeah.
Toujours Radio Campus Grenoble 90.8 et c'est toujours l'émission Dégenrée. Alors, moi j'aurais aimé vous parler d'un petit truc. J'ai écouté quelques émissions de radio cet été et en fait elles sont autour de la thématique de ce que c'est qu'être une personne racisée en France de première, deuxième ou haute génération. Et voilà, et en fait il se trouve que c'est des thématiques qui me concernent et qui me posent des questions. Et en fait je suis très friande de ce genre de thématiques, de podcasts, d'émissions, plus des podcasts, des trucs comme ça, parce que les bouquins, moi j'aime pas trop lire. Et du coup j'en ai écouté quelques-unes cet été, et du coup j'ai écouté la série de podcasts de l'émission LSD sur France Culture, je crois, qui s'appelle Heureuse comme une arabe en France. Ces séries d'émissions s'appellent Heureuse comme une arabe en France. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais il y avait des choses qui pouvaient être énervantes en fait. Et voilà, en tout cas, je trouve que c'est, de toute façon, toutes les manières d'aborder ce genre de thématiques, je trouve que c'est intéressant de les écouter. Et si ça vous intéresse, je vous invite quand même à aller écouter ça avec une petite dose d'esprit critique sous la main. Voilà, et sinon après, j'ai trouvé un autre podcast que j'ai bien aimé, qui s'appelle Latte. Alors Latte, ça s'écrit L'A-T-A-Y. Et en fait, ça veut dire le thé en arabe, en fait. Et du coup, c'est des personnes qui se retrouvent des potes et tout ça, étudiants, étudiantes, qui se retrouvent et qui discutent de ce que c'est, de plein de thématiques différentes, mais à chaque fois sous le prisme de ce que c'est que d'être racisé en France. Et je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, c'est hyper accessible en termes de ce que ça aborde et de comment ça l'aborde aussi. Et en fait, je trouve ça intéressant. Et en fait, tout ça, ça me donne l'impression qu'il y a toute une culture politique, si je puis dire ça comme ça, qui est en train de se créer autour de ce que c'est que d'être racisé en France, de première, deuxième ou troisième génération, et en fait avec l'histoire du colonialisme aussi derrière, et en fait c'est hyper intéressant, je trouve. Et moi en tout cas j'en ai énormément besoin pour pouvoir nourrir mes réflexions et y arriver. Et donc voilà, si vous voulez écouter tout ça, que c'est le genre de thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et d'ailleurs aussi, si vous voulez en suggérer d'autres, si vous en connaissez et que vous entendez cette émission, appel sur toutes les ondes, n'hésitez pas à envoyer un mail avec des suggestions d'émissions à l'émission de Dégenré. Et alors l'adresse mail pour pouvoir le faire, c'est Dégenré, D-E-G-E-N-R-E-E, @pimienta.org. Voilà, n'hésitez pas à le faire si vous pouvez, c'est trop bien. Et sinon, du coup, ben là, je voulais vous proposer d'écouter un petit morceau de musique d'un groupe qui s'appelle, je sais pas comment il faut le dire, mais Tchégué. Gay, voilà, et le morceau s'appelle Survivor et c'est du punk congolais. Je vous laisse écouter ça.
Toujours dans Dégenré sur Radio Campus 90.8. Et on va continuer à vous donner envie de lire, d'écouter, de réfléchir. En tout cas, on espère qu'on va faire ça. Alors moi, je suis restée cet été à Grenoble. Il faisait très chaud. Et une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai repris la lecture. Voilà, donc je suis assez contente de faire ça. Et pour ce faire, ben, je suis allée à la bibliothèque municipale et je suis allée demander des récits qui soient écrits où on ne soit pas forcément dans la tête d'une personne hétérosexuelle. Vous voyez, j'avais envie d'être dans la tête de personnes qui n'étaient pas hétérosexuelles. Alors, il y a plein de bibliothécaires à qui j'ai demandé ça, qui m'ont regardée de manière un peu bizarre. Et puis, il y en a une qui m'a regardée en disant « Je comprends ». J'ai vu dans son regard « Je comprends ». Et là, je me suis dit « Oh, toi aussi !» Voilà. Donc, je te salue si tu nous écoutes. Merci beaucoup pour les conseils que tu m'as donnés. Notamment, j'ai lu, grâce à cette bibliothécaire, une autrice contemporaine qui s'appelle Axelle Sandre, que je vous recommande. Donc, c'est une autrice qui écrit pour l'adolescence, je dirais. Elle fait vraiment des romans initiatiques, quelqu'un qui sort de l'enfance et qui découvre des choses sur lui ou elle, quand même plus régulièrement lui. On pourrait dire qu'il y a un thème récurrent dans son œuvre, c'est le fait d'avoir des héros qui ont des familles vraiment cheloues, voire qui n'ont pas de famille et du coup qui sont passés par l'ASE, et qui sont des personnes qui sont extrêmement intelligentes, et du coup ça permet une certaine forme de passing social.
Juste, on peut préciser, ASE c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est ça?
Oui.
Voilà, merci.
Je t'en prie. Et donc là, je vais vous parler plus particulièrement de Dysfonctionnel. Donc Dysfonctionnel, c'est un roman où on suit Fidèle. Fidèle est une gamine qui vit avec un père qui tient un bar à Belleville, à Paris, et une mère qui fait régulièrement des allers-retours à l'hôpital psychiatrique et qui raconte sa vie qui est vraiment beaucoup plus rock'n'roll que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans des histoires d'enfance, et la solidarité que ça fabrique à l'intérieur de sa famille, mais aussi à l'intérieur du bar et avec ses frères et sœurs, et comment tout un chacun se positionne. Et du coup, elle a un oncle qui dit « notre famille, elle est dysfonctionnelle », d'où le titre du roman. Elle est dysfonctionnelle, mais en même temps, il y a énormément d'endroits de joie, de solidarité, de mode de vie, de mise en commun. Et du coup, Fidèle, elle va aussi découvrir qu'elle est lesbienne. Et on la suit là-dedans. Et c'est vraiment à la fois dur, caustique et joyeux. Et son dernier roman, je vous le conseille aussi, ça s'appelle Le cœur battant, je crois. Pour vous montrer qu'elle est plutôt sur des thématiques un peu complexes, je dirais. Parce que là, c'est donc sept personnes qui se retrouvent ensemble à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils et elles ont essayé de se suicider. Donc ils ont une nouvelle terminologie qu'on appelle suicidant. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas réussi à se suicider. Et ils décident, donc ils ont des parcours très variés, des âges différents, des niveaux socio-économiques différents. Et puis ils décident de partir ensemble pour aller se suicider en Normandie. Voilà, donc on suit ces personnes-là. Et peut-être comme ça, ça ne vous donne pas envie, mais vraiment, moi, je trouve que c'est des bijoux en termes d'écriture et en termes de... je ne sais pas, de comment est-ce qu'on arrive à trouver à rebondir et à trouver de la joie dans la merde aussi. Voilà. Et donc, l'autre chronique littéraire que j'avais envie de vous faire, c'était de parler d'un manga, donc un manga qui est terminé, qui est en 4 tomes, qui s'appelle « Éclat d'âme » de Kamitani Yuki. Donc ce manga nous fait suivre l'histoire de Tatsuko Kaname. Donc c'est un jeune lycéen qui vient de se faire outer en tant que gay au collège parce que un de ses camarades de classe trouve sur son téléphone une vidéo de porno gay. Et du coup, il subit du harcèlement scolaire et il en peut plus de la vie et du coup, il hésite à se suicider. Et au moment où il y pense, il croise une personne très étonnante. Et du coup, il la suit. Et en la suivant, il se retrouve dans un salon de discussion. Et du coup, c'est un espace pour les personnes LGBT dans une ville qui s'appelle Onomoshi, au Japon, pour discuter, faire de la sociabilité. Et aussi, c'est une association qui rénove les anciennes maisons. C'est-à-dire que ces personnes-là, donc, qui sont des personnes LGBT, se retrouvent pour travailler ensemble et pour rénover, en partenariat avec la mairie, des maisons. Et donc, on suit cette personne dans l'acceptation de qui il est, dans son rapport à la haine de soi. Il y a aussi pas mal de questions autour des transidentités et qui sont, en tout cas pour le troisième tome, extrêmement bien traitées, j'ai trouvé. Donc voilà, je vous invite à lire ce manga qui se lit très rapidement, qui est vraiment bien dessiné et qui est à la fois dur et à la fois donne beaucoup d'énergie. Et maintenant, on va s'écouter de la musique. Et non, on va pas s'écouter de la musique. Maintenant, on va écouter. En fait, on a une camarade de plus à Desgenrés, on en a plein d'autres, mais qui ne pouvaient pas être là durant leur rentrée parce qu'elles étaient prises à d'autres choses. Et comme ce sont des camarades formidables, elles nous ont envoyé par mail des chroniques.
Bonjour, alors pour cette émission de rentrée 2019, je vous propose une petite chronique sur un livre qui va paraître en octobre. Bon, en fait c'est une réédition, puisque la première fois qu'une version de ce livre voit le jour, c'est aux États-Unis en 1969, sous forme d'une brochure, et il sera réédité en 71 avec son titre définitif, et publié en France en 77. C'est un ouvrage féministe, écrit collectivement, traduit en 31 langues différentes et adapté à chaque contexte. C'est la maison d'édition Hors d'Atteinte qui va rééditer une version francophone adaptée cet automne. Vous avez deviné ? Il parle de féminisme, de médecine, d'autodéfense, d'autonomie, de santé, de corps. Et oui, c'est ça, c'est notre corps nous-mêmes. Alors en 1969 à Boston, le collectif Boston Women's Health Book utilise des connaissances médicales, des témoignages, pour écrire la brochure « Women and Their Body », « Les femmes et leur corps ». Le titre va évoluer et en 71, elle publie le livre « Who Embody Ourself », donc « Notre corps nous-mêmes ». Tout le savoir qui est réuni dans ce livre, en fait, il a été rassemblé grâce à des groupes de travail, à des témoignages, à des groupes de parole, des livres, des entretiens avec des spécialistes et tout ça. Et elles écrivent alors « Nous étions excités ». Et notre excitation aurait pu déplacer des montagnes. Nous voulions la partager avec nos sœurs, de même que tout ce que nous étions en train d'apprendre. La perception que nous avions de nous-mêmes s'était mise à changer, comme nos vies n'allaient pas tarder à le faire. Et c'est un peu dans la suite de cette idée qu'il y a donc différentes éditions qui sont publiées dans différentes langues et qui sont aussi des adaptations. Et donc on peut noter que c'est pas juste... du savoir médical pur comme ça qui est transmis, c'est vraiment plein de thématiques différentes et plein de sujets différents qui sont traités, mais toujours avec aussi la dimension du vécu et du témoignage. Et alors pour un peu vous donner une idée de comment aussi la traduction ça a été un travail et une source d'apprentissage pour les personnes qui l'ont écrit, je vais vous lire quelques petits extraits de la préface à l'édition française, donc une préface qui a été faite par les traductrices en France pour l'édition en 77. En même temps que nous prenions conscience de notre oppression de femme, nous nous rendions compte que nous étions dominés par le pouvoir médical. Nous ne pouvions pas nous défendre contre cette domination sans apprendre à connaître notre corps. Nous avions eu aussi des contacts avec des travailleuses sociales, des militantes du MLAC. Donc le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Donc nous avions eu aussi des contacts avec des travailleuses sociales, des militantes du MLAC. À qui manquait un tel livre utilisable dans la pratique de tous les jours, répondant aux questions que se posent les femmes sur leur physiologie, le fonctionnement de leur corps, mais aussi sur leur sexualité et leur identité de femme dans leurs rapports sociaux actuels. Un peu plus loin. La façon dont Our Body Ourself avait été élaborée nous paraissait exemplaire. Les femmes du Boston Women's Health Book Collective ont mené de front la discussion entre elles sur leurs propres expériences, la collecte des données scientifiques et médicales et la diffusion de ces informations sous forme de cours dans tous les locaux disponibles, écoles, maternités, églises, ce qui leur donnait l'occasion, grâce aux discussions avec d'autres femmes, d'enrichir le livre par le récit d'expériences vécues et de remanier la forme pour le rendre plus accessible. Et enfin, Je vais vous lire un dernier extrait de la préface. Au cours de leur longue séance de travail, nous vivions ensemble. Nous n'hésitions pas à parler de nous, de nos difficultés professionnelles. L'une de nous a mené une longue bataille contre le licenciement collectif dont elle était victime. De nos rapports avec nos amis, mari, amis, et de bien d'autres choses. Parfois, l'équilibre était difficile à maintenir entre l'exigence et la rigueur du travail et le besoin, le plaisir, de s'exprimer et d'écouter. Mais nous pouvons dire que nous sommes parvenus tout au long de ces années à concilier ces deux démarches, car il nous semblait indispensable de ne pas dissocier ce travail de notre vie professionnelle, et la matière du livre que nous adaptions se prêtait particulièrement à cette fusion. Voilà, alors évidemment, depuis 1977, il y a plein de choses qui ont évolué, notamment autour des questions de santé, mais pas que. Par exemple, il y a eu la dépénalisation de l'avortement, il y a eu le sida, l'évolution des méthodes contraceptives, l'évolution globale de la société aussi. Mais si beaucoup de choses ont changé, il y a aussi énormément de choses qui sont toujours d'actualité. Alors, pour vous donner une idée, je vais lire un peu au hasard des titres de chapitres du livre. Le sexisme que nous avons intériorisé. La redécouverte de l'activité, la redécouverte de la colère et de l'autonomie. En France, on nous appelle des gouines. Comment utiliser la médecine? Comment peut-on être médecin? De la difficulté d'être infirmière? Que sommes-nous en droit d'attendre de notre médecin? La relation médecin-malade. La santé, la médecine. L'institution médicale, une santé au rabais, l'analyse capitaliste de la cause des maladies, maladie et société, le pouvoir médical, le système médical français. Le viol et l'autodéfense, le viol, qui est responsable? Viol et racisme, viol et justice, que pouvons-nous faire, nous les femmes? Que faire si vous avez été violée? Se défendre, apprendre à se protéger, s'entraîner à se défendre, comment riposter? Alors cet automne, notre corps nous-mêmes va être adapté et réédité par la maison d'édition Hors d'atteinte. Et donc sur le site de la maison d'édition, on peut lire « Un collectif de femmes s'est constitué en France il y a un an pour actualiser et rééditer notre corps nous-mêmes. Cette seconde version paraîtra en octobre 2019 dans une nouvelle maison d'édition indépendante et féministe Hors d'atteinte. Sans prétendre représenter toutes les femmes, mais avec le souci de diversifier les points de vue, non seulement au sein des témoignages, mais aussi du groupe d'auteurs lui-même, le collectif rassemble. Tina Akeno et Nana Kinski, étudiantes auteurs du blog afroféministe Aloha Taloha. Mathilde Bleza et Naïke Deken, journalistes et membres de la revue Z. Hélène de Gunzbourg, sage-femme à la retraite. Mounia El-Kotni, anthropologue. Nina Faure, réalisatrice. Marie Herman, éditrice. Marie-Hélène Lay, juriste, blogueuse et auteure, Yelena Perret, cadre de la fonction publique diplômée d'études de genre, toutes sont féministes. Actualisant les informations disponibles et apportant de nouveaux témoignages sur la contraception, l'avortement et le viol, mais abordant également des sujets comme le cyberharcèlement, le corps au travail ou les violences obstétricales, le livre suivra encore et toujours la même méthode, le même principe d'une information fondée et bienveillante, de voix multiples, d'un savoir élaboré par des femmes, mis au service de toutes les femmes. En plaçant au centre de tout le corps, comme ce que toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur classe sociale, leur orientation sexuelle, leur identité ou leur âge, ont en commun. Et donc ça, c'est dans la présentation de l'ouvrage qui est déjà en pré-vente pour soutenir l'édition. Et donc la maison d'édition qui s'appelle Hors d'atteinte, je vais vous lire un petit bout aussi qui la présente, parce que voilà, comme elle est un peu méconnue et qu'elle publie ce super livre, je me dis ça vaut le coup d'en parler un peu plus. Alors, sur elle-même, cette maison d'édition dit « Fondée en 2018, les éditions Hors d'atteinte se donnent pour but de proposer de nouvelles grilles d'analyse d'un monde contemporain en pleine mutation, de donner de l'espoir à ceux qui luttent et d'offrir un espace à des voix inaudibles ailleurs. Féminisme, environnement, urbanisation, racisme, médias, populisme sont quelques-uns des thèmes abordés dans nos livres, dont beaucoup sont conçus comme des boîtes à outils. Hors d'atteinte, comme ce qui ne peut être touché, saisi, ce qui est subtil et souple, indépendant et fugace, mais aussi ce qu'on met à l'abri dans un endroit inattaquable, inabordable. » composé de deux collections, littérature, en fiction, et faits et idées, en non-fiction. Hors d'atteinte, croise les approches de la littérature et des sciences humaines, politique, sociologie, histoire, géographie, philosophie, pour décrire, comprendre le monde, mais aussi imaginer et préparer ce qu'il pourrait être. Hors d'atteinte est une maison d'édition féministe. Loin de se borner à ses thématiques, voire à des auteurs femmes, elle applique ce souci, cette façon de voir le monde, à tous les ouvrages publiés et à sa façon de travailler. Voilà, donc je suppose que courant octobre, on pourra trouver ce livre, sûrement en librairie, et sinon, n'hésitez pas à aller sur leur site internet www.horsdatteinte.org, et hors d'atteinte, ça s'écrit en un seul mot, sans ponctuation. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce livre « Notre corps nous-mêmes », et je vous souhaite une bonne fin d'émission avec Dégenré sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Merci. Merci. Merci, c'est super. Ça fait trop plaisir de t'entendre. Et pour continuer notre émission de rentrée Dégenré sur Radio Campus, et toujours pour parler de corps, Poche, tu voulais nous parler de ton été ?
Oui, je me suis demandé quelle carte postale estivale je pouvais faire parce que les vacances d'été ont été un peu perturbées par une chute de vélo le 10 juillet. Alors, pas grave du tout. Entre une belle croûte et un hématome sur les jambes, j'ai surtout eu une fracture de la tête radiale du coude gauche. Comme vous le voyez, un petit accident de la langue. Donc ça me file 6 semaines d'immobilisation du bras en sorte de double attelle pendant la canicule dans la cuvette grignobloise. Je vous laisse imaginer la petite fièvre. Et pourtant, le plus chiant, c'est pas ça, c'est autre chose. Est-ce que ce serait que les professionnels de santé à qui je dis « Oh, mais quand même, je sais pas si c'est normal, j'ai super mal. » Et on me répond « Oh, ben, va falloir y aller, ma petite dame. Oh, mais va falloir se faire violence. » Ou encore qu'on mette 3 semaines à confirmer qu'il y a bien une complication. Non exceptionnelle, ça concerne 20% des fracturés opérés. Elle s'appelle l'algoneurodystrophie. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? L'algoneurodystrophie. C'est une espèce de, si j'ai donc bien compris, une espèce de vrille de certains organismes déjà affaiblis, donc suite à un choc, un trauma, un truc. Du coup, c'est une sorte de complexe traumatique du système nerveux qui envoie des douleurs. C'est pas bien connu ni bien compris dans ses causes et ses fonctionnements. Tout ce qu'on sait, c'est que ça peut être bien douloureux et potentiellement long, c'est-à-dire entre 6 mois et 2 ans. Voilà. Et pourtant, le plus chiant, c'est pas ça.
Ah ouais.
Le plus perturbant pour moi, c'est d'avoir un handicap provisoire qui se voit, visible. Ça me change. Ça me change aussi dans de bons côtés. Ça me vaut des nouvelles sociabilités quand je sors en ville. Comme par exemple, faire s'agenouiller à mes pieds des inconnus aux arrêts de bus pour me faire mes nœuds de lacets. Bien sûr. Mais j'en ris beaucoup. Mais surtout aussi, il y a des personnes âgées, voire très âgées, qui viennent me parler. Donc notamment dans les transports en commun, mais aussi les arrêts de bus. Et après, je me rends compte que la personne ne prend pas le bus, elle est venue vraiment me parler exprès. On discute de nos santé. Visible donc. Ça me change. Visible pour toutes, pour tous ? Non, évidemment pas autant. Évidemment pour autant, c'est pas vu par tout le monde. Attention, il ne faudrait pas croire que plus visible équivaut généralement et toujours à plus d'attention. Grosso merdo, dans l'espace social, les plus valides, plus jeunes, plus blanches ne nous voient pas. Et risquent de vous faire mal ou tomber. C'est arrivé sans même un mot d'excuse. Ou par exemple encore, les chauffeureuses du bus qui démarrent avant même que vous ayez pu trouver un siège. Et on essaye de se rattraper comme on peut entre vieux-vieille et un petit peu handicapé. Et pourtant donc, comme je le disais, le plus chiant c'est pas ça. Ça me pose des questions. Le plus perturbant pour moi, c'est d'avoir effectivement un handicap provisoire qui se voit.
quand je vis au quotidien avec des maladies chroniques dégénératives qui me font mal, qui m'empêchent, qui m'impactent dans tous les domaines de ma vie, matériels, physiques, mentaux, émotionnels, sociaux, relationnels. Ce qui se voit prend donc toujours le premier plan et met tout le reste au second plan, au fond. Être visible, ou rendre visible, ou se rendre visible, est-ce que ça renforce toujours les invisibles ? À quand des plans un peu plus subtils et complexes ? Le visible visibilisé prend le devant du corps, le devant de la scène. Même quand il s'agit plus d'une goutte d'eau, pouvant certes être un peu salée, pouvant certes faire salement déborder une carafe déjà bien remplie en termes de douleur et de souffrance, mais toujours une goutte d'eau dans cette carafe. De nombreuses maladies chroniques sont invisibles, incomprises. Elles se vivent en même temps comme hors de soi et tellement contenues, tellement intimement. Aussi comme une des stratégies, sans doute, pour ne pas s'y réduire et ne pas y être réduite, peut-être. Le décalage des régimes d'attention, soutien entre mal visible et mal invisible est vrillant. Invisible ne veut pas dire non su, inconnu, notamment des professionnels de santé, de proches, etc. Pourtant, le décalage visible-invisible reste assez marqué. Le visible fait l'objet de plus de soins, de plus d'attention, voire de trop d'attention en comparaison, et en renforçant un peu la dimension invisible, si pas prise ensemble. C'est perturbant. Ça complexifie encore des questions déjà épineuses de partage, de limites, d'aide, d'autonomie, de dépendance. Ça me fait bien cogiter. Et ça m'épuise aussi. C'est éreintant de donner autant de temps et d'énergie pour cette réparation visible quand le reste qui m'occupe quotidiennement est déjà bien intense, ça dure tout le temps et ça demeure là tout le temps. Et en ce temps encore plus, invisible et invisibilisé. Le plus chiant, est-ce que c'est la visibilité qui rajoute une couche sur l'invisible ? Bref, c'est un peu ces questions-là que ça m'a fait tirer. Et que je vais continuer à tirer. Et Là, j'ai fini ma chronique, alors je ne sais plus comment terminer. Je vais annoncer un morceau de musique en disant que ce ne sont que les premiers pas. Voilà, hein, c'est ça. J'aurais pas dû prendre la...
Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ?
Eh ben, on va écouter les Shags. Le morceau, c'est Foot Foot. Et c'est bizarre, mais c'est trop bien.
Youhou !
continue maintenant de nouveau avec des chroniques culturelles. Qu'est-ce qui nous est proposé maintenant ?
Alors, moi aussi, je vais vous parler de mon été. Je suis allée à la montagne accompagner ma tante qui est bergère pour apprendre à être bergère et parce que j'en avais un peu marre de sociabiliser tout le temps et que j'avais besoin de prendre l'air. Et voilà, c'était super d'être avec les brebis. Pour moi, ça faisait un peu comme si j'étais en non-mixité. Ça faisait vraiment communauté de meufs qui s'entraident, qui se battent. Mais le truc, c'est que les brebis, elles chôment, c'est-à-dire qu'elles se reposent et elles digèrent ce qu'elles ont mangé le matin pendant à peu près 6 heures, voire plus, à partir de 10h30, 11h. Ce qui laisse quand même pas mal de temps à tuer. Et du coup, j'arrive pas à lire d'habitude dans ma vie quotidienne. Et donc, je me suis dit que c'était le moment de lire des trucs. Et j'ai réussi à finir 2 livres, ce qui m'était pas arrivé depuis un sacré bout de temps.
Bravo.
Dont un livre que je voulais lire depuis longtemps et que vous avez peut-être déjà lu, qui est paru en 2006. Et c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Donc, il est encore édité, même il a été réédité récemment. Il est en format poche, trouvable à peu près partout. Ça coûte 6,10€. Enfin, moi, je l'ai payé 6,10€. Donc, vraiment accessible. Et voilà, donc je voulais vous en parler un peu, au cas où vous ne connaissez pas encore ou si vous n'en souvenez plus. C'était assez drôle de lire ça au milieu des brebis, avec autour de moi des personnes, donc ma tante qui est bergère et sa collègue, qui sont émancipées d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elles travaillent de manière relativement autonome, sans patron ni mec sur leur dos, loin de beaucoup de choses. Et loin de confort, mais aussi assez loin des questionnements qu'il y a dans le livre de Virginie Despentes. Ce livre, il m'a fait l'effet d'une petite bombe, et quand j'ai essayé d'en parler avec elle, je me suis aperçue que c'était compliqué et dur à entendre pour elle. Pour moi, voir parler de prostitution, notamment de cette manière, c'était la première fois que j'arrivais à me projeter, à voir la prostitution comme une possibilité, une alternative économique, et pas forcément la pire. Et du coup, ça touchait à des choses très concrètes et nouvelles qui touchaient à ma propre vie. Et c'est un sujet qui est vraiment tabou. Et donc voilà, je suis restée à être bousculée par tout ça, presque seule dans la montagne. Et c'était assez drôle, ce décalage. Et donc, pour vous parler un peu du contenu du livre, donc elle commence par parler de ce que c'est d'être une personne assignée femme. Et du fait que la construction en tant que femme est indétachable en fait, de la question du viol. Et elle parle également beaucoup de prostitution et de pornographie, mais plus comme des moyens d'émancipation dans ce livre. Voilà. Et du coup, sur le viol, ce que j'ai retenu, c'est que le fait de... C'est qu'il y a... Elle, comment dire
Elle amène une manière d'en parler peut-être un petit peu inhabituelle.
Voilà,
et ça t'a apporté une nouvelle...
Ouais, une nouvelle vision du viol où souvent les victimes du coup sont considérées comme victimes et les violeurs comme des monstres, comme des malades qui ne sont pas le commun des personnes...
Des hommes.
voilà. Et en fait, elle amène à considérer le viol comme quelque chose de commun, c'est-à-dire pas forcément... Enfin, pas quelque chose de normal et qui devrait exister, mais quelque chose qui existe de manière commune et qui n'est pas exceptionnel. Et en fait, elle présente comme libératrice l'idée d'envisager le viol comme un risque à prendre pour se permettre de sortir dans la rue. Voilà. Et comme je suis pas sûre d'en parler très bien, j'avais envie de vous lire un extrait. Où elle parle du coup de après son viol. Les premières années, après le viol, surprise pénible. Les livres ne pourront rien pour moi. Ça ne m'était jamais arrivé. Quand, par exemple, en 1984, je suis internée quelques mois, ma première réaction en sortant a été de lire « Le pavillon des enfants fous, vol au-dessus d'un nid de coucou. » Quand j'avais 5 ans, je m'ai tuée. Et les essais sur la psychiatrie, l'internement, la surveillance, l'adolescence. Les livres étaient là, tenaient compagnie, rendaient la chose possible, dissible, partageable. Prison, maladie, maltraitance, drogue, abandon, déportation, tous les traumas ont leur littérature. Mais ce trauma crucial, fondamental, définition première de la féminité, c'est-à-dire celle qu'on peut prendre par effraction et qui doit rester sans défense. Ce trauma-là n'entrait pas en littérature. Aucune femme, après être passée par le viol, n'avait eu recours aux mots pour en faire un sujet de roman. Rien, ni qui guide, ni qui accompagne. Ça ne passait pas dans le symbolique. C'est extraordinaire qu'entre femmes, on ne dise rien aux jeunes filles, pas le moindre passage de savoir, de consignes de survie, de conseils pratiques simples. Rien. Enfin, en 1990, je monte à Paris voir un concert de Limbomaniac, TGV, Jolie, Spin. Une certaine Camille Paglia y écrit un article qui m'interpelle et commence par me faire rigoler, dans lequel elle décrit l'effet que lui font les footballeurs sur un terrain. Fascinante bête de sexe, pleine d'agressivité. Elle commençait son papier sur toute cette rage guerrière et à quel point ça lui plaisait, cet étalage de sueur et de cuisses musclées en action. Ce qui, de fil en aiguille, l'a mené au sujet du viol. J'ai oublié ces termes exacts. Mais en substance, c'est un risque inévitable. C'est un risque que les femmes doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez elles et circuler librement. Si ça t'arrive, remets-toi debout. Dust yourself et passe à autre chose. Et si ça te fait trop peur, il faut rester chez maman et t'occuper de faire ta manucure. Ça m'a révoltée sur le coup. Haut le cœur de défense. Dans les minutes qui ont suivi, de ce truc de grand calme intérieur. Sonné. Gare de Lyon, il faisait déjà nuit. J'appelais Caroline, toujours la même copine, avant de filer vers le nord, trouver la salle rue Ordonneur. Je l'appelais, surexcitée, pour lui parler de cette italienne américaine, qu'il fallait qu'elle lise ça et qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Ça l'a sonné, pareil que moi. Depuis, plus rien n'a été cloisonné, verrouillé comme avant. Pensé pour la première fois le viol de façon nouvelle. Le sujet jusqu'alors était resté tabou, tellement miné qu'on ne se permettait pas d'en dire autre chose que « quelle horreur » et « pauvre fille ». Pour la première fois, quelqu'un valorisait la faculté de s'en remettre, plutôt que de s'étendre complaisamment sur le florilège des traumas. Dévalorisation du viol, de sa portée, de sa résonance. Ça n'annulait rien à ce qui s'était passé, ça n'effaçait rien de ce qu'on avait appris cette nuit-là. Voilà. Pour clarifier, c'est pas dire que le viol, c'est rien à vivre, mais que juste souvent on a tendance à s'étendre sur le fait que ce soit... Enfin, sur les traumatismes que ça a créé et pas sur comment s'en remettre et le fait qu'on en est capable, en fait, de s'en remettre et... Voilà. Et ça me fait enchaîner avec un film que j'ai vu cet été aux états généraux du documentaire à l'USAS, qui s'appelle « Sans frapper » et qui parle lui aussi de viol. C'est un super beau film qui a été fait par Alex Poukine. Alex, c'est A-L-E-X-E. Et la jeunesse de ce film, c'est en fait... une jeune fille qui est venue la voir et qui lui a confié son histoire de viol. Et la réalisatrice... Enfin, c'est une histoire qui est dure à entendre parce que, comme beaucoup d'histoires de viol, elle ne correspond pas aux critères qu'on met pour que le viol soit considéré comme un viol. Et en fait, la réalisatrice a décidé de faire dire ce témoignage par plein de personnes qui ont... dans leur vie, eu affaire au viol d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a aussi... il y en a juste deux ou trois, je ne me souviens plus exactement, mais des hommes qui, et des personnes qui ont été agresseurs. voilà, et en fait, ce processus, ça permet de montrer que ce témoignage, qui est un témoignage singulier, fait en fait partie d'une histoire commune, et je trouvais ça assez réussi. Et ça a amené aussi les personnes qui racontaient le témoignage en fait, à s'interrompre parfois pour parler de ce que ce témoignage leur évoquait, avec quoi ça résonnait dans leur vie. Et notamment du fait qu'au début de l'histoire, elles ne croyaient pas forcément à un viol et en fait de tout le processus mental qui amène à se rendre compte que c'en est un et que... Voilà. Et du coup, on va vous passer la bande-annonce.
Là, c'était la deuxième fois. C'était la plus violente.
Je sentais plus rien. Je regardais la scène depuis le plafond.
Je pense même que c'était dans la nuit qu'elle m'a réveillée en pleurant. Et... Non, mais c'est tout à fait vrai, j'ai... Il y a des bouts entiers que j'ai oubliés.
Moi, ça m'est arrivé, c'est tout petit bout de ma vie. C'est 5 minutes, 6 minutes de conscience. Et donc, à un moment, je me suis raconté, baf, je peux bien gommer 5, 6 minutes de ma vie.
Aussi, tous les ans, aux alentours du mois d'avril, je commençais à perdre pied. Et au mois de mai, je switchais complètement. Là, tout foutait le camp. Et je démissionnais, en fait. Je détruisais tout.
Début mai, tout foutait le camp. J'ai démissionné. J'ai détruisé tout.
Voilà. Et donc, ce film est sorti en Belgique, parce que la réalisatrice est belge, le 12 septembre. Et malheureusement, en France, il est passé au FID, donc à Marseille, c'est un festival de cinéma documentaire, et à l'USAS, aux États généraux, mais la sortie nationale n'est pas encore prévue. Voilà, et je voulais vous parler aussi d'une pièce de théâtre, d'un spectacle de clown en fait, que j'ai vu en Ardèche le 14 septembre, qui s'appelle SOS Détresse Émancipation. Il est passé à Grenoble aussi la semaine dernière, du coup il y a eu deux dates, le 16 et le 18, c'est au planning familial je crois à Échirol. Voilà, et du coup c'est un spectacle de clown qui s'empare de phrases qui sont qui ne sont pas forcément violentes quand on les lit comme ça, mais qui en fait participent à des violences psychologiques parce que répétées, parce que dans un contexte particulier. Et du coup elles ont récupéré plein de phrases et se les sont appropriées, sont permis en fait de jouer avec et les pousser jusqu'à l'absurde. Et donc c'est un spectacle qui ne parle pas de pourquoi c'est des phrases violentes, qui ne prend pas le temps d'expliquer ça, mais qui, plutôt que de passer par le sens, passe par quelque chose de très physique et avec l'humour, arrive à... Enfin, pour moi, ça a été très fort émotionnellement. Et ça faisait du bien qu'il n'y ait pas forcément besoin d'expliquer et de se justifier sur pourquoi la violence de ces phrases... Voilà, j'avais prévu de lire un petit bout de brochure, mais peut-être que c'est... Voilà, on n'a pas le temps. Et juste pour dire que c'est la compagnie du linge sale et qu'elles ont une date en octobre en Ariège au festival Pied de Beach. Voilà.
C'est quand ?
C'est en octobre, c'est le 18 ou le 12, je ne me souviens
D'accord.
plus.
D'accord, plutôt vers le 12.
Ouais, okay.
Plutôt
vers le 12.
Alors, moi, je me dis qu'on va un tout petit peu vous laisser un programme et se permettre d'écouter un petit morceau de musique pour faire une pause. Alors, je vous propose un morceau de Chavela Vargas qui s'appelle No Volver. Et du coup, ça, c'est un autre film que j'ai eu l'occasion de voir cet été que je vous conseille, qui est un documentaire autour de la vie de Chavela Vargas. Donc, Chavela Vargas, une chanteuse, compositrice, interprète, née en 1919 au Costa Rica, qui ensuite s'est fait naturaliser au Mexique et qui est la figure de proue du style rancha. Et qui est une femme complètement incroyable, qui était ouvertement lesbienne, qui était l'amante de Frida Kahlo, et qui portait des pantalons à des moments où ce n'était pas forcément le moment. Bonne écoute.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré. Aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminaba. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Toujours sur Radio Campus 90.8 à l'écoute de Dégenré, notre émission de chronique, conseils, lecture, petits moments politiques. Alors, puisqu'on est encore dans cette rentrée littéraire qui est quand même assez conséquente, eh bien on avait envie de vous parler du fait que demain, il se passe un truc qu'on attendait depuis longtemps. Demain, c'est la sortie de la traduction française de Stone Butch Blues. Alors, qu'est-ce que c'est Stone Butch Blues ? Ça raconte l'histoire de Jess, née aux États-Unis dans les années 50, au sein d'une famille juive et prolétaire. De son enfance, rythmée par les interrogations des passants et passantes sur son genre, c'est un garçon ou c'est une fille ? À son adolescence et à sa découverte des bars de nuit, où se côtoient lesbiennes, drag queens, travailleuses du sexe. De ses premières embauches en usine, avec d'autres butches, à sa transition, jusqu'à sa rencontre avec le mouvement LGBT naissant, et son parcours traverse les décennies et nous parle d'amour, d'amitié, de politique, d'identité. Et par-dessus tout, Stone Butch Blues est un hommage à la solidarité et à la construction de ces communautés qui nous permettent de tenir ensemble et de survivre à la violence de ce monde. Donc, Leslie Freisberg, militant transgenre, communiste révolutionnaire juif et juive laïque, activiste et antiraciste, s'est inspiré de sa propre vie pour écrire ce roman en 93. Décédé en 2014 après des années de maladie, Yael nous offre, avant de partir, une toute nouvelle édition de Stone Butch Blues, libre de droit. Et en dépit de son succès international, qu'il a élevé au rang des références communautaires lesbiennes et trans, Stone Butch Blues n'avait jamais été édité en français. Bien que n'étant pas traducteur et traductrice, nous sommes quelques personnes fortement marquées par la lecture de ce livre à avoir voulu en proposer une traduction militante, pour le rendre accessible à une majorité de personnes, mais aussi pour répondre aux exigences que Leslie Freisberg a formulé en postface de la dernière édition. Nous avons publié Stone Butch Blues à prix participatif particulièrement bas, qui n'aurait d'autre objectif que de combler les coûts de production. Pour cette raison, nous ne le diffusons pas dans le circuit professionnel classique, mais uniquement au sein d'un réseau restreint de librairies partenaires. Donc ce livre va être édité à la maison d'édition associative Hystérique et Associée. Et pour nous donner envie d'en savoir un peu plus, on va écouter un extrait lu de ce livre mis en musique par des camarades qui font de la radio à Nantes sur Jet FM et qui l'ont mis pour une émission sur Stonewall.
Teresa et moi, on a toutes les deux entendu au même moment le tapage à l'extérieur du bar. Elle a posé sa bouteille de bière et elle a couru dehors. J'ai attrapé nos bouteilles au cas où on aurait besoin de les casser pour en faire des armes. Une fois dehors, on s'est toutes les deux arrêtées d'un coup sur notre lancée. Justine était à genoux. Un flic se tenait près d'elle. Sa matraque pendait lâchement à ses côtés. J'ai vu du sang dégouliner sur le côté du visage de Justine. C'était une soirée de juillet, d'une chaleur étouffante. Beaucoup de gens s'étaient éparpillés à l'extérieur pour boire leur bière. Deux voitures de police étaient garées en face du bar. Quatre flics nous faisaient face. « Rentrez à l'intérieur, vous tous !» a aboyé un des flics. Aucune de nous n'a bougé. Le flic, qui se tenait près de Justine, a attrapé une poignée de ses cheveux. « Debout » a-t-il ordonné. Elle a trébuché en essayant de se lever et elle est retombée sur le bitume. Teresa a enlevé ses talons hauts. « Enlève tes mains d'elle !» a lancé Teresa au flic. Sa voix était basse et calme. « Laisse-la tranquille !» Teresa a marché doucement vers le flic avec ses talons dans la main. J'ai retenu ma respiration. Georgetta a aussi enlevé ses deux talons aiguilles et en a pris un dans chaque main. Elle a marché derrière Teresa. Elles ont échangé un regard que je n'ai pas pu voir et se sont dressées côte à côte. Le flic a posé la main sur la crosse de son flingue. Je ne sais pas comment, mais on savait toutes instinctivement qu'aucune bouche ne devait bouger à ce moment-là. J'ai entendu la voix de Peaches. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» On s'est jeté un coup d'œil les unes les autres. « Oh oh !» a-t-elle lâché. La voix de Teresa était aussi basse qu'un murmure. « Laisse-la tranquille. » Avec Georgetta, elles se sont avancées peu à peu jusqu'à entourer Justine. Le bras de Teresa s'est drapé autour des épaules voûtées de Justine. Justine s'est agrippée au bras de Teresa et de Georgetta pour se relever. Quand elle a vacillé, Teresa a enroulé un bras autour de sa taille pour la soutenir. Le flic a dégainé son flingue. « Putain de salope » a-t-il beuglé à Teresa. « Putain de pervers !» nous a-t-il crié à toutes. Un autre flic lui a fait rengainer son arme. « Allez, on s'en va !» Lentement, les quatre flics se sont repliés. Quand les flics sont partis, j'ai lâché un soupir. Teresa et Georgetta ont serré Justine dans leurs bras pendant qu'elle pleurait. Je me suis précipitée vers Teresa, mais Peaches a enroulé son bras autour de mes épaules. « Donne-leur une minute, chérie !» m'a-t-elle conseillé. Ed est arrivé dans le bar 20 minutes plus tard. « J'ai loupé ça !» a-t-elle gueulé. « Merde, pourquoi j'étais pas là ?» J'ai ri. « Tu peux être contente, ça aurait pu tourner autrement. C'était limite. »« Ouais, mais aujourd'hui, a répondu Jeanne, les femmes leur ont montré qu'il ne faut pas se frotter à nous. C'était comme ce qui s'est passé à Greenwich Village, il y a quelques semaines. » J'ai froncé les sourcils. « Et il s'est passé quoi ?»« Stonewall !» a crié Grant. J'ai regardé Ed et j'ai haussé les épaules. Jeanne a eu un grand sourire. Les flics ont voulu faire une descente dans un bar de Greenwich Village, mais au lieu de ça, il y a une baston. Les drag queens et les Hill-L leur ont vraiment botté le cul. Grant a ri. J'ai entendu dire qu'ils avaient essayé de brûler le bar avec des flics barricadés dedans. J'ai soupiré. Merde, j'aurais aimé être là-bas. Ouais, c'est exactement ce que je me dis à propos de ce qui s'est passé ce soir, a conclu Ed en tapant du poing sur le bar. Voilà, donc on vient d'écouter un extrait du roman Stone Butch Blues, écrit par Leslie Feinberg.
Et vous écoutez Dégenré sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et alors, Poche, tu voulais nous parler d'une petite BD ?
Oui, parce que moi, comme vous avez entendu tout à l'heure, mon été a quand même été particulier. Du coup, c'était compliqué de lire. J'ai pas lu grand-chose, parce que contre toute attente, c'était compliqué de lire avec une main. Enfin bref, ça me tombait dessus, gna. Et pour autant, la BD à laquelle j'ai choisi de plus vous inviter, c'est pourtant celle qui était la plus lourde, parce que genre, elle fait plus de 500 pages.
C'est vachement plus lourd qu'un roman, en fait, une BD.
Ben, ça dépend le format, mais en tout cas, celle-ci... Vrai. Mais justement, ça fait partie de mon essai de vous convaincre qu'elle est très bien, parce que alors qu'elle était la plus lourde, c'est la seule que j'ai finie, que j'ai lue en 3 nuits d'insomnie. Donc ça s'appelle « Dans un rayon de soleil ». C'est la nouvelle BD de Tilly Walden. Je dis nouvelle parce qu'a priori, elle est un peu connue pour avoir écrit Spinhead, que moi, je connais pas, mais qui a l'air un peu devenu culte, mais voilà. C'est sorti là, je pense que c'est sorti dans l'été, ou alors vraiment juste avant, chez Gallimard. Et alors, effectivement, déjà, physiquement, c'était pas celle qui aurait dû plus m'accrocher, et j'ai pas réussi à décrocher. Et alors que c'est pareil, on pourrait dire que c'est une espèce d'histoire d'amour, mais c'est science-fiction, hein, donc on pourrait... J'ai vu, des fois, c'était résumé comme une espèce d'odyssée, d'une sorte d'amour intergalactique ou je sais pas quoi. Bon, ben moi, ça, normalement, ça me parle pas. Et alors que c'est ça qui se passe quand même, j'ai pas du tout décroché non plus. Et genre, je voulais jamais les quitter. Donc, c'est quand même, c'est pour dire qu'on rentre dedans de façon... Donc, ça se passe, effectivement, c'est science-fiction. Au départ, on suit un personnage qui débarque sur un vaisseau où la profession, c'est de, comment dit-on, de restaurer des anciens bâtiments déchus, voire oubliés du cosmos, des trucs. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'il n'y a aucune, comment dire ça, on ne sait pas où on est, quand on est, on s'en fout complètement. Il n'y a jamais de mec, il n'y a rien qui est expliqué là-dessus, mais c'est juste trop bien. Enfin, comment dire, il y a plein de... J'ai trouvé et graphiquement et comment dit-on ça narrativement, il y avait plein d'astuces qui du coup nous plongeaient grave de on est harponné grave, c'est onirique à souhait. On n'a jamais envie de les quitter. C'est ultra comment dit-on. Il y a plein de nuances sur les relations, sur les amitiés, tout ça. Enfin voilà, je trouvais qu'en n'étant pas aidée du bras, en n'aimant pas les histoires d'amour, alors que j'avais trop kiffé que j'avais pas pu la lâcher, j'étais quand même obligée de vous en parler.
Et donc, redis-nous comment ça s'appelle ?
Dans un rayon de soleil.
Et l'auteur ?
C'est très beau, visuellement c'est très beau. Et l'auteur s'appelle Tilly Walden. Je vous la conseille fortement.
Ça fait grave envie.
Voilà, moi c'était tout pour ça. Et là, je crois qu'on va juste enchaîner avec un petit morceau de musique avant la dernière partie de l'émission. On fait ça ? Ok. Ouais. C'est Skeletal Family et ça s'appelle This Time.
toujours à l'écoute de Radio Campus 90.8 dans l'émission Rentrée Actualité de Dégenré. Alors on est vers la fin de l'émission et nous allons maintenant parler d'une actualité de l'été grenobloise dont c'était important de parler maintenant et on a prévu de faire une émission plus longue à ce propos.
Le 17 mai à la piscine des Dauphins, puis le 23 juin à la piscine Jean Bron, des femmes du collectif Rosa Parks musulmane se sont baignées en maillot de bain couvrant. Avec le soutien de Alliance Citoyenne de l'agglomération grenobloise, elles réclament un nouveau règlement des piscines municipales, un règlement prenant en compte la liberté de religion et la liberté pour les femmes de couvrir ou de découvrir leur corps. L'enjeu, permettre à des centaines de femmes musulmanes de l'agglomération grenobloise d'accéder aux piscines municipales seules ou avec leurs enfants. Le 11 juillet, le planning familial de l'Isère a pris position sur cette lutte, voici leur communiqué. Nos corps dérangent, jetons-nous à l'eau, la laïcité à corps perdu.
À celles et ceux qui invoquent la laïcité ici et nationalement et qui, par là, instrumentalisent le débat, nous rappelons, comme nous l'avons fait avant, comme l'avait fait avant nous le défenseur des droits, l'Observatoire de la laïcité et les fédérations iséroises des associations de la Ligue de l'enseignement, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, que les questions des tenues de bain ne révèlent pas. La loi de 1905 n'instaure pas la police du vêtement. La laïcité impose la neutralité au service public et à ses agents, pas à ses usagères, sur tout le territoire. C'est l'État qui se doit d'être laïque, pas la société. Et si l'État considère que les lieux de baignade devenaient l'égal d'une école, ce serait donc à lui de légiférer préalablement sur le sujet. À nos corps discriminés, l'égalité devant le service public.
Ainsi que le relevait en 2016 déjà le Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, les codes vestimentaires interdisent les burkinis sur les plages, affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles et sapent leur autonomie en niant leur aptitude à prendre des décisions indépendantes sur leur manière de se vêtir et constituent une discrimination claire à leur encontre. Fermez les guillemets. Ce qui est donc en jeu ici, c'est bien une discrimination et une stigmatisation à l'encontre d'un groupe de personnes spécifiques. La question du maillot de bain et la polémique médiatique montrent bien la double oppression que subissent les femmes musulmanes du fait d'islamophobie et du contrôle patriarcal sur les corps. Sans relativiser la particularité de cette oppression, nous dénonçons l'injonction à la standardisation des corps normés dans des maillots normaux que nous subissons toutes et tous à différents degrés. Si certaines sont tout à fait à l'aise en tenue de piscine, d'autres sont mal à l'aise en short de bain moulant ou maillot standard. Qu'on soit trans, intersexe, non-binaire ou cisgenre, le règlement intérieur de la plupart des piscines françaises nous impose arbitrairement la forme du maillot en vigueur. Finalement, ce serait dans l'intérêt de toutes et tous de pouvoir porter un maillot de bain la phrase est coupée. Petit, j'imagine. Bon, bref. Depuis quelques semaines, chacune y va de son commentaire, de son étendard et ne permet pas d'entendre ce que disent nos corps. Le planning familial, mouvement d'éducation populaire qui, par ses actions, veut permettre à chacune de suivre son chemin, va proposer avec d'autres associations et surtout des citoyens-citoyennes concernés des espaces de dialogue sur l'ensemble du territoire, des espaces libres, sans injonction, pour que si les règlements devaient évoluer, cela soit possible sereinement. Nous le faisons au quotidien. Nos corps, nos choix.
Au planning, nous militons pour le droit à chaque personne de disposer librement de son corps. Et nous nous inscrivons dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et d'inégalité sociale. Nous vivons dans un monde d'injonctions majoritairement liées au corps et particulièrement au corps des femmes. Nier qu'une femme est en capacité de décider pour elle-même et lui interdire à travers sa tenue certains espaces, certains sports et certaines pratiques ne sera jamais la clé de son émancipation. Comme nous soutenons le combat de toutes les femmes qui luttent pour l'égalité l'égalité d'accès aux services publics et ici aux piscines municipales, nous souhaitons qu'elles, leurs enfants et leurs familles puissent profiter des piscines avec nous tous et toutes. Cette question n'est pas une question territoriale, mais bien nationale, car si nous voulons l'égalité, nous la voulons partout sans distinction. Les règlements des piscines pourraient évoluer partout pour permettre à toutes les femmes et toutes les personnes qui le souhaitent de porter les tenues de bain dans lesquelles elles se sentent à l'aise, tant que celles-ci respectent les règles d'hygiène et de sécurité. Or, le maillot couvrant ne pose pas de problème d'hygiène ni de sécurité aux piscines de Rennes, à Oslo, en Norvège. Il est autorisé depuis 2009 et en Suède, on peut même en louer dans une piscine. Voilà, c'était le communiqué du planning familial à propos de la piscine.
Et on espère donc qu'on en reparlera plus tard. Et sinon, ben, je crois que voilà, on a fait le tour. Mais non, on n'a pas fait le tour. Marina, toi, t'as fait quoi cet été? T'étais où? T'as lu quoi?
Alors moi, moi, j'ai lu le journal. J'ai lu le journal local de là où j'étais. C'est quand même le genre de journal que je ne lis jamais. Mais j'étais dans le sud-ouest et un matin, en allant à la boulangerie, j'ai vu la une de la Dépêche du Midi.
Alors,
qui est un peu l'équivalent du
Daubé.
Du Dauphiné Libéré, voilà.
Pardon.
Et donc, la Dépêche du Dimanche titrait « L'étonnant retour de la sorcellerie ». Elles sont féministes, écolos et connectées. Ce sont les nouvelles sorcières et elles sont des milliers à s'adonner à la magie moderne. Reportage.
Mais qu'est-ce que la magie moderne?
J'ai sorti mon porte-monnaie et j'ai pas acheté que des croissants, hein. J'ai acheté le journal. J'étais très, très surprise et très curieuse. Bon, alors, je vous épargne les détails, je vais direct droit au but. C'était un peu nul et très décevant, puisque ces fameuses... Mais je pense que la jeune journaliste, c'est un sujet qui doit vraiment l'intéresser, parce que dans les chapeaux, elle met tout ce qu'elle veut. Elle met un peu les trucs qu'elle dit, qu'elle est anticapitaliste, elle dit que c'est des féministes, écolos, anticapitalistes. Et après, dans le corps des articles, plus rien ne transparaît et c'est absolument dépolitisé. Et ça parle quand même surtout de femmes qui font des baumes à base de plantes et qui les vendent sur les marchés. Des baumes cosmétiques, si possible. Et il y a quand même un gros encart sur attention aux dérives et aux arnaques des trucs pas vraiment médicaux. Enfin, vous voyez, c'était très décevant. Je me suis dit, bon, c'est super que la sorcière soit un peu à la mode de nouveau et comme figure pop un peu subversive, mais si elle est complètement dépolitisée, moi, je crois que ça me rend quand même triste.
Ça perd
alors,
son sens.
Alors, je suis allée chercher dans Starhawk... sorcière parmi les sorcières contemporaines que je n'ai jamais lue, mais j'ai juste puisé un petit extrait où elle dit « Se nommer sorcière, c'est à la fois s'identifier aux victimes qu'on fait de tout temps la misogynie et la persécution religieuse et rendre aux femmes le droit d'être fortes, puissantes et même dangereuses. » Et là, on reperçoit la dimension subversive et politique de la figure de la sorcière. Ce qui me fait penser, qui sont les sorcières aujourd'hui, à quoi servent-elles aujourd'hui, et si elles sont écolos, alors contre quoi se battent-elles? Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il s'est passé quelque chose à Bure, il n'y a pas très longtemps, et on avait envie de parler de ces sorcières-là. C'est beaucoup plus intéressant que celle de la Dépêche du Midi.
Donc on a reçu un texte d'une personne qui y était et qu'on va vous lire. J'ai marché avec IL et je n'en revenais pas. Jamais je n'ai participé à une marche de cette forme-là. Jamais je n'avais dansé autour d'un feu en scandant des slogans. Sorcière, vénère, antinucléaire.
Ce week-end à Bure, dans la Meuse, a eu lieu pour la première fois en France une marche en mixité choisie sans hommes cisgenres, pour dire non à l'industrie du nucléaire. Bure, c'est un territoire où un projet... d'enfouissement de déchets radioactifs est en cours depuis plusieurs décennies. Des personnes luttent contre ce projet depuis plus de 30 ans. Ces dernières années, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues vivre sur le territoire pour lutter ensemble. L'accroissement de la lutte s'est accompagné d'une très forte répression. De nombreuses personnes sont en procédure judiciaire, certaines sont interdites de territoire ou en prison. Vers Bure, la manifestation n'est plus permise.
Les bombes atomiques collectifs féministes ont voulu tenter une redynamisation de la lutte contre le nucléaire en proposant un week-end en mixité choisie sans hommes cisgenres à Bure. L'idée était de se montrer en soutien à Bure, ainsi qu'à tous les territoires en France, mais aussi ailleurs où l'industrie du nucléaire ravage des paysages et abîme, souille des corps.
Voilà le communiqué de presse d'après la marche, rédigé à chaud après la marche par le collectif.
Ce samedi, pour la première fois en France, 500 personnes ont marché en mixité choisie contre le nucléaire, à Bure, là où l'État prévoit d'enterrer les déchets les plus dangereux du parc nucléaire français.
500 femmes, Gwyn, trans, personnes non-binaires, queer, ont marché et ont pu constater les effets de la politique désastreuse du tout nucléaire en France. Elles sont à passer à côté des travaux sur la voie ferrée qui acheminera l'intégralité des déchets nucléaires du pays. Elles sont passées par des zones arrosées de subventions publiques pour acheter l'acceptabilité des populations et elles ont dansé devant le laboratoire de l'Andra. Ensemble, des maires, des habitantes, des militantes et de nombreuses personnes qui n'étaient jamais venues à Bure ou qui avaient cessé de le faire, ont regagné le droit inaliénable à manifester, alors que l'État, avec sa répression croissante, voudrait faire de ce territoire une zone interdite. Le cortège coloré et chantant a traversé la forêt accompagné d'animaux radioactifs et scandant des slogans émancipateurs. « Ni famille, ni déchets nucléaires, vous n'enfouirez pas nos colères, nous rayonnons plus fort. » Face à l'Andra, autour d'un feu de joie, une ronde ensorcelante a pris forme, force, rire, colère et joie ont traversé nos corps.
Le week-end continue, demain. Des discussions sur la suite de cette incroyable manifestation auront lieu. Ces 500 personnes ont montré qu'il était encore possible de résister par de nouvelles portes d'entrée en ouvrant nos imaginaires et en s'émancipant ensemble. Nous avons décidé de nous retrouver sans hommes cisgenres, dont l'identité de genre correspond à l'identité assignée à la naissance, pour reprendre la place qu'on nous confisque trop souvent. Le temps du week-end, nous prenons la parole, nous montons des barnums, nous installons l'électricité. Nous nous redonnons de la force et de la confiance pour retourner ensuite dans une vie mixte où il nous faut affronter chaque jour le sexisme, le partage inégalitaire des tâches, des violences, d'une société patriarcale.
À l'heure du réchauffement climatique, l'industrie nucléaire est plus dangereuse que jamais. La fuite en avant du gouvernement actuel est une folie. À mesure que les catastrophes se multiplient, tornades, tsunamis, incendies, ces installations sont de plus en plus fragiles. À mesure que la planète brûle, il nous faut penser la sobriété énergétique et stopper une production industrielle qui nous asphyxie.
En marchant à Bure, ce 21 septembre, nous marchons aussi avec les Gilets jaunes et autres collectifs pour une rentrée climatique et sociale, afin de défendre un monde qui ne détruit pas le vivant et qui s'affranchit des rapports de domination.
On vous invite à aller sur le site des Bombes Atomiques, ce groupe féministe qui a organisé cette marche, pour plus d'infos. Sur leur site, vous tapez bombeatomique.noblog.org. Youhou ! Émission de rentrée sur les starting blocks hein, dégenrés. On va terminer ?
On arrive à la fin.
Alors, on termine pour dire qu'à Grenoble, il va se passer plein de choses. On vous y invite. On n'a pas le temps de vous donner les... Comment on fait pour savoir ce qui se passe de féministe à Grenoble ?
Oh, bah, il y a le site du CRIC Info Grenoble, il y a le site de la BAF, qui est un centre social autogéré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Il y a des agendas sur le TAMI et ICI Grenoble.
Voilà.
Donc, voilà, on peut dire quand même les choses auxquelles on voulait inviter les gens, même si on ne peut pas décrire.
À bah, quoi,
qu'est-ce qu'on on voulait vous dire ? Venez à la BAF pour la soirée de court-métrage qui est le...
Qui est très enthousiasmante et qui sera le 18 octobre. Vous avez encore le temps de faire vos propres courts-métrages DIY. Bien et bien. Ça sera soirée donc court-métrage et pyjama. Si vous avez bien compris, c'est la soirée court-jama.
Ok, venez en pyjama à la BAF pour une soirée court-métrage. Il y avait autre chose ?
Il y avait le...
En deux mots, non ?
Bah, peut-être juste le partage ta page qui est ce dimanche toujours à la BAF de Chemin des Alpins. Moi, je dis que les choses qui m'enthousiasment.
Hein. Ok. et on vous invite aussi à signer une pétition pour défendre les droits des enfants intersexes et interdire les opérations chirurgicales et les traitements abusifs sur les enfants intersexes. Vous tapez pétition intersexe, il y a moyen que vous la trouviez. Merci de la signer pour elle et eux.
Oui.
Et voilà, c'était notre rentrée. Et alors, on vous dit au revoir.
Et on vous dit, du coup, notre nouveau créneau, vous l'aurez compris, c'est le mardi de 16h à 17h30. Et on ne se retrouve pas la semaine prochaine, c'est un mardi sur deux, on se retrouve le mardi suivant.
Et vous pouvez nous écouter sur radiorageuse.net.
À très vite, où les podcasts sont aussi en lien sur Radio Campus.
Salut, on est très contents.
Salut,
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 ciao.